Merci de votre attention.
Bonsoir et bienvenue dans votre émission À votre avis, l'émission avec les auditeurs. Abdourahmane Dia, la présentation. Hier, le Mali a encore souffert une autre attaque menée par des individus armés dans le campement de Kangaba, près de Bamako. Bilan 5 morts, dont un militaire et des blessés. 4 assaillants ont également été abattus. Ce soir, nous allons parler des armées africaines face au terrorisme, la question de la formation, mais également le financement, alors que les pays du G5 Sahel cherchent à mettre sur pied une force régionale pour combattre les djihadistes dans la région. Mais cette question du financement de cette force reste en suspens. Le Conseil de sécurité n'a toujours pas donné son feu vert. Le numéro pour appeler, c'est le 001-202-205-2633. Vous pouvez également continuer de commenter sur notre page Facebook. Mais avant de revenir sur cette question du financement et de la formation, parlons d'abord de la réaction des forces spéciales maliennes avec cette dernière attaque hier. C'est avec notre invité Madou Diallo, analyste politique malien et spécialiste en droit international. Bonsoir Madou.
Bonsoir Monsieur Dia.
Alors vous êtes à Bamako, vous avez suivi cette dernière attaque, la énième si on peut le dire ainsi. Comment jugez-vous cette fois-ci la réaction des forces spéciales maliennes?
Oui, il faut reconnaître que la réaction a été rapide au niveau des forces spéciales maliennes. Mais ce qu'il faudrait surtout dire, c'est que ça fait quand même plusieurs attaques qui surviennent non seulement à Bamako, mais aussi dans certaines capitales de la sous-région. Donc, c'est vous dire que maintenant, dans les esprits, les gens commencent à s'attendre à ça. À tout moment, il peut y avoir des attaques, aussi bien à Bamako que surtout dans les centres du pays et puis le nord du pays.
D'accord. Madou, vous restez avec nous. Nous allons prendre deux auditeurs. D'abord, une auditrice du Mali, Rokia. Rokia, bonsoir. Vous nous entendez, Rokia? Allô? Bon, nous allons voir ce qui se passe avec Rokia à Bamako. Nous allons retrouver El Awa au Cameroun. El Awa, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Alors, la question du terrorisme concerne également le Cameroun. Comment est-ce que vous jugez comment les armées africaines se comportent face à cette question? On parle souvent d'un problème de moyens et des fois même de formation par rapport à cette nouvelle menace, si on peut le dire ainsi.
Oui, c'est vraiment triste. C'est très bien d'avoir commencé par passer toutes mes condoléances à ces familles et des victimes, c'est-à-dire les militaires qui ont perdu la vie. Et nous allons, il doit dire que depuis des années aujourd'hui, l'Afrique est en constante menace par des attaques terroristes et autres. Et à ce que je sache, un pays qui est constamment menacé doit être à mesure de développer aussi à mesure de ses attaques des tactiques de défense. Parce que, comme vous voyez, la sécurité d'un pays n'a pas de prix. Là, vous pouvez donner un exemple du Cameroun, que depuis que Boko Haram a commencé au Cameroun, notre État a énormément investi dans l'armement et dans les dépenses pour reformer ses militaires. Même on a invité les spécialistes pour former les militaires, les forces spéciales. Cela coûte vraiment beaucoup d'argent à l'État. Donc je pense que l'Afrique a des moyens. L'Afrique et les Africains, les chefs d'État devaient encore mettre encore plus dans la main pour pouvoir former plus de militaires et être en alerte avant que ces attaques puissent arriver, qu'ils puissent au moins avoir des renseignements comme des services secrets pour pouvoir les prévenir.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé du Cameroun. Nous avons deux auditeurs du Mali, Diara Kanyoumé et Brahima. Brahima, d'abord, vous nous entendez?
Oui, je vous entends, je suis à l'écoute.
D'accord. Vous dites qu'il faut une nouvelle stratégie pour combattre le terrorisme.
Vous savez, dans la guerre contre le terrorisme ici au Mali, nous avons vu que la décision de la population n'est pas du tout prise en compte, dans la mesure qu'elles sont les premières victimes. Pourquoi ne pas les impliquer davantage afin de les encadrer, qu'ils puissent fournir des maximums d'informations auprès des agents de sécurité et celui de l'autorité malienne. Vous savez, la population n'est pas du tout informée. Donc les agents de sécurité, y compris les forces étrangères qui sont ici au Mali, doivent mutualiser leurs efforts avec la population. Donc il doit de tout faire impliquer la population davantage pour pouvoir renforcer les dispositions de sécurité qui sont mises en place. La population n'est pas du tout informée en amont et en aval. Il faut des numéros verts aussi. Il faut mettre des numéros verts dans les communes et de manière locale, même dans les villages, pour que la population puisse informer les préfets, les autorités coutumières et religieuses et administratives pour un peu renforcer la sécurité davantage.
D'accord. Merci beaucoup, Brahima. Diarra Kanyoumé, toujours à Bamako. Bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane Diab, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Alors, vous dites que l'organisation G5 Sahel doit travailler normalement dans... Enfin, je ne comprends pas trop ce que vous avez écrit. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que vous voulez dire
Oui, effectivement Abdourahmane, il faut imaginer, à mon avis, je pense que vraiment les autorités maliennes, elles sont en train de travailler 24 heures sur 24 heures dans les capitales, mais même dans les régions. Mais je vais poser une question à notre invité qui est
Madou Diallo.
Voilà, par rapport à tout, j'ai imaginé que par rapport à tout, les interventions militaires au Mali, par rapport au nord, même dans les capitales, il y a beaucoup de surveillance aujourd'hui. Je pense que vendredi passé, il y avait une attaque vers Bangon Carrefour. Donc, il y avait un camion qui était arrêté avec des explosifs, avec des armes, avec des munitions. Et aussi dans les régions au nord aussi, vraiment, je suis désolé contre toutes les interventions militaires. Malgré toutes les interventions, il y a toujours attaque. Vraiment, je n'ai pas savoir. Il y a France même qui est à la tête, mais je ne comprends rien dedans.
Monsieur Diallo, notre auditeur vous interpelle sur la recrudescence des attaques malgré la présence militaire, même étrangère.
Il faut reconnaître que déjà, vous savez qu'il y a deux ans, il y a eu la signature d'un accord de paix. Mais malheureusement, dans la mise en œuvre, on constate quand même beaucoup de difficultés et beaucoup de retards, ce qui est quand même un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, c'est la MINUSMA qui est déployée au Mali. Et tout le monde quand même est d'accord que le mandat de la MINUSMA, c'est vrai, ça a permis une certaine stabilisation du Mali. Mais aujourd'hui, ça ne permet pas de répondre de façon vraiment globale aux problèmes sécuritaires du pays. Donc c'est pour cela que moi je me dis l'initiative du G5 Sahel, c'est une très bonne initiative qui vise à mettre vraiment en commun les moyens de sécurité de la sous-région et également de les doter d'une armée avec un état-major conjoint qui puisse permettre aux pays africains en ce moment de répondre à cette dynamique, de répondre si vous voulez à ces besoins sécuritaires. C'est vrai que la sécurité, c'est aussi de façon globale. Tant qu'il y aura ce problème au nord du pays, tant qu'il y aura toutes ces difficultés au centre du Mali, donc il faudrait s'attendre à ce qu'également il y ait des attaques de plus en plus. Donc je me dis aujourd'hui, le fait de mettre en place le G5 Sahel avec une force de plus de 5000 hommes, ça va être vraiment déjà un début de solution assez important. C'est une initiative qui mérite d'être renforcée.
Monsieur Diallo, est-ce que ce n'est pas vraiment, on n'est pas encore à l'étape des intentions, puisque la mise en place de cette force dépend en grande partie du financement qu'auraient alloué les Nations Unies, et là ça bloque un peu.
Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a un blocage au niveau des Nations Unies, surtout à travers l'administration américaine, parce que les États-Unis ne voient pas la pertinence, mais je pense quand même que véritablement, c'est quelque chose qu'il faudrait encourager, et même en dehors des Nations Unies, trouver des solutions de financement, pourquoi pas à travers aussi des États africains. Mais le plus important aussi aujourd'hui, c'est de trouver une solution par rapport surtout à la mise en œuvre de l'accord pour voir les points de blocage, quelles sont les solutions que l'on peut trouver, parce que tant qu'il n'y aura pas de solution au niveau de la mise en œuvre de l'accord, il y aura de l'insécurité dans le nord et de plus en plus dans le centre du pays.
D'accord. Nous avons un autre auditeur du Mali, Séverin. Séverin, bonsoir. Séverin. Nous allons prendre Abdourahmane Diallo en Guinée. Abdourahmane.
Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien?
Oui, merci beaucoup. On vous écoute.
Bon, selon moi, il est temps maintenant que la communauté internationale, en plus de l'Amérique, qu'il puisse trouver une solution au niveau de la crise qui secoue la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout au niveau du Mali. Parce que les djihadistes ont commencé à fatiguer les hommes, parce que chaque fois qu'il y a de l'attentat, il y a des personnes qui perdent leur vie, donc c'est vraiment déplorable. Nous demandons à la communauté internationale de veiller à cela pour qu'il n'y ait pas assez de problèmes au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Et dans votre commentaire Facebook, vous dites que les armées africaines sont mal équipées. Qu'est-ce qu'il faut au-delà même de l'assistance internationale? Est-ce que les pays africains ne devraient pas peut-être investir plus dans la défense, par exemple?
Bon, moi je pense bien que les pays africains sont un peu pauvres face à la situation des djihadistes. C'est pourquoi je demande aux États plus forts de s'impliquer activement pour résoudre ce problème.
D'accord, merci beaucoup Abdourahmane Diallo depuis la Guinée. Nous avons John Trésor au Burkina Faso. John Trésor, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Oui, je voulais vous dire que vraiment, les pays africains, surtout les pays du G5 là, ils sont très très mal équipés pour combattre le terrorisme.
Et qu'est-ce qu'il faut faire alors?
On peut pas avoir jusqu'à 3 forces, Barkhane, MINUSMA et le G5 qui est en train d'être formé, et puis il y a toujours ces gens d'attaque-là. On ne sait même pas par où ces gens-là viennent, on ne sait pas avec des lourdes armes, ils arrivent à pénétrer dans le pays pour pouvoir semer leur massacre. Donc il faudra bien équiper les militaires, il faudra bien les former, les encadrer pour qu'ils puissent vraiment combattre le terrorisme. Par-dessus de ça, je voulais demander à la communauté internationale, surtout les États-Unis, qui puissent mettre la main pour qu'on arrête ce genre de massacre. Parce que si on n'y prend pas garde, le Mali sera dans les mains des terroristes et ça va éparpiller dans l'Afrique de l'Ouest tout entier. Donc, on va demander à la communauté internationale de bien ouvrir le pouvoir cette affaire pour qu'on puisse en sortir définitivement avec le terrorisme.
D'accord, merci beaucoup, John Trésor. Alors, Monsieur Madou Diallo, on a aussi un auditeur un peu plus tôt, Brahima, qui parlait de l'implication des populations, mais le risque aussi, c'est un peu la stigmatisation. On a malheureusement l'auditrice du Mali qu'on n'a pas pu avoir, Rokia Yatandou, qui disait que lutter contre le terrorisme, il faut d'abord distinguer les terroristes de la population. C'est un peu aussi ça un des risques.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que l'auditeur qui parlait d'impliquer la population, ça déjà c'est une réalité, parce que quand l'information circule, ça aide beaucoup les forces de défense et de sécurité dans leur travail. Mais également, quand vous parlez de stigmatisation, vous savez que sur ce plan, avant l'intervention française en 2012 au Mali, la plupart de ceux qui constituent aujourd'hui les groupes armés signataires, il y a une grande partie qui faisait partie aussi des groupes djihadistes. Donc, souvent aussi, la frontière entre les groupes djihadistes et ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes signataires de l'accord, cette frontière, souvent, elle n'est pas toujours évidente. Et également, il y a aussi l'accord de paix, malheureusement, qui est aussi en panne dans l'application. Donc, ça veut dire également que ce sont des éléments qui sont là et qui constituent des difficultés. Mais malgré tout cela, c'est important véritablement de lutter contre cette stigmatisation. Et je pense que sur ce plan, la population a commencé à comprendre.
D'accord. Nous avons un auditeur, Moise Cissé. Monsieur Cissé, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Oui, Voilà, bonsoir à vous, monsieur Dia, bonsoir à votre invité. Je ne sais pas si c'est le docteur Mad Diallo de l'URD, bonsoir à lui quand même.
Madou Diallo.
Bonsoir, oui.
Mm-hmm. On vous écoute, oui.
Ok, merci. Alors, moi je pense que on doit s'attaquer au mal à la source. Moi je suis prédicateur, il faut qu'on dissocie certains mots et certaines appellations. Le djihad fait partie de l'islam, même si c'est réglementé. Donc nous, on n'accepte pas qu'on attribue le mot terrorisme à l'islam ou qu'on traite les terroristes de djihadistes ou bien de l'islam. Non, non, non. Ces clichés-là, on ne l'accepte pas. Ce n'est pas tous les musulmans qui font le mal. Ce n'est pas non plus ceux qui ne sont pas musulmans qui ne font pas du mal. La preuve, en Grande-Bretagne, une mosquée vient d'être attaquée. Alors, donc il faut qu'on dissocie dans la manière même de parler. Maintenant, en ce qui concerne le Mali, et moi je pense que le Mali est victime, pas le Mali seulement, mais le monde entier est victime de ce que moi j'ai appelé une perfidie intellectuelle. C'est-à-dire un manque d'honnêteté de la part des élites qui dirigent ce monde aujourd'hui. Regardez l'exemple de Qatar, hein, des États-Unis. Les États-Unis qui vendent un avion à 12 milliards de dollars au Qatar et qui fait la pression sur les Arabes saoudites en pointant du doigt les Qatar.
Monsieur Cissé, vous sortez un peu du thème. On parle de la préparation ou non des armées africaines à faire face à cette menace.
Ça vient de là. Si le Mali est là comme ça, c'est parce que la France est intervenue en Libye. C'est les effets collatéraux.
D'accord.
Si l'Irak est comme ça, parce que les États-Unis ont fait ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, on ne peut pas les dissocier.
D'accord.
Je ne sors pas du cadre, j'essaie de pas du pardon.
D'accord. Alors, donc, on vous comprend très bien. On vous comprend très bien, merci beaucoup.
Ils étaient où? Ils étaient là. Nous connaissons des pays de ce G5 Sahel-là qui payent des rançons pour ne pas être attaqués.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Cissé. On a très bien compris votre point de vue. Nous avons repris Séverin, qu'on avait perdu. Séverin, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oui, on vous écoute.
Et moi, je pense que pour lutter contre ce fléau, donc les pays africains se unissent ensemble pour lutter contre ce fléau. Un seul pays ne peut pas lutter contre le terrorisme. Quand on forme maintenant les soldats, c'est des antiterroristes dans tous les pays africains qui travaillent ensemble. Parce qu'il y a deux terroristes qui sont au Mali maintenant, ils vont dans un pays limitrophe. Vous voyez, c'est comme ça pour moi, c'est mieux de former les soldats maintenant pour lutter contre ce fléau international. Parce que pas seulement le Mali, pas un seul pays ne peut pas lutter contre ce fléau. C'est ça ma proposition. Tous les pays africains ont pu avoir cette idée, c'est mieux que les Africains puissent un peu respirer. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, dans tous les pays africains, il n'y a pas la paix parce que tout le monde se crée. Parce que ça peut dépendre à tout moment. Pour voir que pour le Bongo, hier, brusquement, ils sont venus attaquer. Vous voyez, c'est ça que je propose. Pour lutter contre ce fléau, tous les pays africains, les paysans, réunissent l'armée, parce qu'ils doivent former l'armée pour travailler ensemble maintenant. Les pays africains, les pays limitrophes, je ne sais pas, on n'est pas ici maintenant, Mauritanie, combien de kilomètres, ici, Algérie, combien de kilomètres, c'est à ce moment.
D'accord.
Si les populations réunies maintenant pour lutter contre ce fléau, c'est mieux, c'est facile maintenant pour gérer notre continent.
D'accord. Merci beaucoup, Séverin. Nous avons Rokia du Mali également qui est de retour. Oui, Rokia, on vous écoute. Vous inquiétez un peu de la stigmatisation qui est un peu liée à cette lutte contre le terrorisme.
Oui.
On vous écoute.
Bon, maintenant, pour le Mali, les armées quand même font de leur mieux, mais ce qui les manque, c'est les équipements, quoi.
Ah, c'est les équipements.
Oui, c'est les équipements qui les manquent. Bon, si l'État peut voir et leur donner tous des coups de maître, ça allait mieux. Ça va aller mieux.
Vous savez que c'est un problème de moyens également. C'est justement pour cela que le G5 Sahel sollicite le soutien du Conseil de sécurité. D'accord. Merci beaucoup, Rokia, d'avoir appelé du Mali. Nous avons Brahima Doumbia. Voilà. Brahima Doumbia du Mali également.
Oui, également depuis Sikasso. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA. Et concernant la crise du Mali, je pense qu'elle s'enlise de jour en jour. Surtout l'attaque qui s'est produite hier, je pense que il faut trouver une solution à cela. Sinon, vraiment, on avait...
Mais la solution, c'est justement les cinq pays du G5 qui essayent de... Vous m'entendez?
Surtout donner des moyens à l'armée malienne. Concernant la force G5, je pense que la France a pris l'initiative, mais vu son engagement dans la force Balkan, surtout au Sahel, je pense qu'elle n'aura pas les moyens nécessaires pour mener à bien ou donner les moyens nécessaires à cette force G5. Il faut surtout l'aide des États-Unis, mais vu la position de Trump, je pense que c'est mal choisi, c'est mal parti pour le moment. Et
l'Union africaine dans tout cela, la CEDEAO, pourquoi ces pays-là, ces institutions ne font rien?
Cette crise touche pratiquement...
J'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent pas. Merci beaucoup.
La Mauritanie et tout.
Voilà. Merci beaucoup, Brahima. Nous avons Bakary Keïta. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je disais à Brahima, mais il ne m'entendait pas, que oui, les Occidentaux, c'est bien, mais et des institutions comme l'Union africaine ou la CEDEAO?
Bon, l'Union africaine, la CEDEAO, bon, c'est vraiment les bémols, c'est-à-dire, mais c'est le hic du problème. Parce qu'il faut avoir quand même les moyens nécessaires. L'Union africaine, la CEDEAO, vraiment, n'a pas vraiment les moyens nécessaires. C'est pour quand même l'initiative quand même du G5 Sahel est à saluer. Mais le G5 Sahel quand même sera confronté à pas mal de problèmes, notamment vraiment, il va falloir que le G5 Sahel quand même soit équipé d'un arsenal de guerre conséquent et aussi les renseignements aussi. Tout ça, ça demande quand même des moyens colossaux, est-ce que vous voyez. Mais l'initiative est à saluer. Dans l'application, je crois que ça va toujours poser problème, est-ce que vous voyez. Donc moi, je m'en vais d'abord m'incliner pieusement à la dépouille quand même de tous ceux qui ont perdu la vie hier. Et aussi, la seule note de satisfaction aussi, c'est de saluer quand même la combativité des soldats maliens qui ont vite réagi vraiment.
Ils sont intervenus très vite.
Vraiment les terroristes.
Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Bakary, et nos condoléances à tout le monde à Bamako. Nous allons peut-être conclure avec notre invité, Madou Diallo. Alors, les auditeurs ont beaucoup insisté sur la mutualisation des forces des différents pays qui sont touchés. Donc, la question de la solidarité qui revient ici.
Oui, en fait, c'est important. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui que la sécurité des Africains soit vraiment assurée par les Africains eux-mêmes, bien sûr avec l'appui des partenaires. Mais ce qu'il faudrait également dire, c'est que c'est vrai, le G5 Sahel, c'est d'abord 5 pays, mais il ne faudrait pas aussi que la porte soit fermée à d'autres. Je pense au Sénégal, je pense en Algérie, et je pense même aussi à la Libye. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, vous savez que c'est vraiment lié à la situation en Libye. Et je crois bien que le président du Niger avait parlé même, souhaité même un moment, une intervention internationale dans le sud de la Libye. Donc c'est pour vous dire véritablement que tout cela est lié.
Donc il faut, à votre avis, élargir le G5, inclure des pays comme le Sénégal. Je sais qu'au Sénégal, cela avait fait un peu polémique. Certains n'avaient pas compris pourquoi le pays ne faisait pas partie, alors que même s'ils n'ont pas subi d'attaque pour l'instant.
Voilà, c'est pour cela que j'ai dit le Sénégal, l'Algérie aussi, qui a une grande expérience en matière de lutte antiterroriste, et d'ailleurs qui joue un grand rôle quand même dans les dossiers maliens. Et pourquoi pas la Libye, s'il y a des institutions dans ces pays qui peuvent véritablement collaborer là-dessus. Mais ce qu'il faudrait aussi reconnaître, c'est que la situation sécuritaire dans le nord, dans le centre du Mali, est suffisamment grave, suffisamment préoccupante pour que le Conseil de sécurité en prenne véritablement la mesure et comprenne qu'aujourd'hui, la MINUSMA, telle qu'elle se présente aujourd'hui, ne peut pas répondre, si vous voulez, à ses besoins sécuritaires. Et également, reconnaître qu'il y a des difficultés par rapport à l'application de l'accord et voir les points de blocage, comment aussi pouvoir les améliorer. Donc, tout cela, ce sont des points qui sont là et qui sont assez importants. Et pour répondre rapidement à M. Cissé par rapport à l'appellation, c'est vrai, les gens utilisent l'appellation djihadiste, ce n'est pas un concept qui vient de nous, mais je pense quand même que c'est une appellation qui est aujourd'hui utilisée dans le sens véritablement des terroristes qui veulent utiliser l'islam. Sinon, tout le monde a compris que véritablement, l'islam, ce n'est pas une religion. Véritablement,
de violence. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Madou Diallo, analyste politique, spécialiste des relations internationales à Bamako. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Merci à Georges Léonard. Ça y est, au revoir.